Et pourtant, toujours, nous nous choisissons un compagnon. Non pour nous, mais pour quelque chose en nous, hors de nous, qui a besoin que nous manquions à nous-mêmes. Compagnon par avance perdu, la perte même qui est désormais notre place, ne lit plus, regarde, ne regarde plus, va. Paul Celan. Bonjour, donc bienvenue pour ce chapitre 13 chez Jean-Hugues Larcher. Merci Jean-Hugues de me recevoir, de nous recevoir pour ce bis.
Merci.
Donc, on va déambuler.
Allez.
On va déambuler dans ta bibliothèque, cette fois-ci matérielle, puisque tu n'as pas pu venir avec toute ta bibliothèque la dernière fois.
J'aurais eu du mal, oui.
Donc, on va continuer et là... est-ce qu'on peut parler de coordonnées ? J'aime beaucoup ce mot, de coordonnées. Nous sommes dans la coordonnée pour nos auditrices A1.
Oui, nous sommes au niveau du 45e parallèle à peu près.
Voilà.
Et donc, il y a plutôt les...
Des piles
de livres. Il y a Guy Debord, il y a Michel Léris, Casanova, Proust, Sénèque dans le désordre, Kierkegaard, Homère et les romans libertins du 18e.
Voilà. Et du cinéma aussi. Alors je vois Godard. Je me suis accrochée à ça.
Godard, il y a Prénom Carmen, hélas pour moi, oui. Il y a Claire Denis, il y a Desplechin, il y a Lanzmann, il y a Garrel. Fassbinder, on peut pas...
Claire Denis, ça me rappelle...
Claire Denis, oui, S'en fout la mort, un très bon film sur Guy Georges qui avait assassiné les vieilles dames à Paris.
Voilà. Oh là là, oui.
Et voilà, alors c'est un DVD qui est couplé avec Nénette et Bonnie, qui est un film un peu plus glamour, si on peut dire que Claire Denis est glamour. Voilà, puis après, plein d'autres choses. Voilà.
Alors, est-ce qu'on peut... On va essayer de procéder par sonde. Est-ce que je fais une roue... je tombe sur...
Ouais. Fitzgerald.
Ouais.
Ouais, Fitzgerald. Fitzgerald, je ne sais pas si j'en ai parlé la dernière fois, mais c'est un auteur que j'aime beaucoup... notamment pour ses portraits de jeunes filles, mais très très soft, hein, pas du tout comme comme on entend aujourd'hui ces histoires. Et oui, Fitzgerald, j'ai longtemps préféré Faulkner à Fitzgerald, un autre F de la littérature américaine. Et puis Fitzgerald, je trouve que c'est très 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 léger comme écriture. Enfin, ça parle de la légèreté. Ces tragédies sont toujours.
Comment tu l'as découvert?
Alors j'ai découvert avec un livre, il va falloir passer à côté comme ça, je vais voir le livre directement, qui s'appelait L'Envers du Paradis, justement. Donc, ouais. L'Envers du Paradis, si je retrouve, L'Envers du Paradis, il est là. Donc L'Envers du Paradis, c'est un livre un peu sur c'était il y a un siècle exactement, voilà. Alors il dit, j'étais comme un seau vide, si abruti après avoir écrit tout l'été, et je m'étais embauché pour réparer les toits des wagons dans les ateliers de la Northern Pacific. C'est alors que le facteur sonna à ma porte, et ce jour-là, je plaquais mon travail et je courus dans les rues, arrêtant les autos pour dire à mes amis et connaissances que mon roman, L'Envers du Paradis, avait été accepté par un éditeur. Cette semaine-là, le facteur sonna, et je payais mes terribles petites dettes, achetais un costume et me réveillais chaque matin dans un monde d'excitation et de promesses ineffables. Donc ce livre est paru pour la première fois en 1920. Donc on est sur le centenaire de L'Envers du Paradis.
D'accord. Et non, je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. Bah, super.
Ouais. Il a écrit Gatsby le Magnifique aussi. Ça,
voilà,
Gatsby le Magnifique, Tendre et la Nuit.
Oui, le titre. Voilà. Je ne connais pas du tout. Il faudra que je regarde son écriture.
Donc c'est un univers, c'est un univers de l'amour. Et c'est un univers où il y a beaucoup de femmes. Il y a une grosse écriture, contrairement à Faulkner, où c'est moins le cas.
Pourquoi tu les compares tous les deux? Explique-moi, parce que moi, je ne les connais pas.
Parce que c'est deux grands auteurs américains du début du XXe siècle, d'accord, on va dire, avec Hemingway. Enfin, le troisième, c'est Hemingway.
D'accord.
Bon, après, ça, c'est un peu mon tiercé de tête. Après, les gens rajouteraient Fante ou d'autres.
Enfin, mais comment... Ouais, voilà. Moi, je connais plus Fante.
Voilà. Fante ou j'en sais rien. Ça me vient pas comme ça.
Mais après, concrètement, est-ce que tu te rappelles comment tu as fait connaissance avec son œuvre?
Concrètement, je sais pas. Là, je suis dans ma deuxième période, c'est après 27 ans. Tu te rappelles qu'on avait fait
l'épisode 17. Merci.
Donc c'est un peu voilà cette période où je suis arrivé à Toulouse et où je lis Fitzgerald, où je lis Faulkner, où je lis Georges Bataille,
Tu découvres aussi Georges Bataille en fait, tu veux
voilà,
dire.
Voilà, Georges Bataille. Georges Bataille c'est un gros point. Hein. Georges Bataille c'est comme je disais des romans, des essais, l'expanse intérieure dont on a parlé juste avant.
Voilà, qu'il y a sur la table de ton salon, que tu relis, que tu as relu.
Parce que j'ai toujours pas tout compris, ou j'ai l'impression de pas avoir tout compris.
C'est bon signe, ça.
Voilà, où j'avais pas tout compris il y a quelques années, et je comprends autre chose, en tout cas maintenant.
Eh ben oui.
C'est toujours les mêmes.
Comme quoi, alors là, un point de lecture, avec une amie commune qui n'est pas d'accord sur ce point-là, qu'est-ce que tu penses, en fait, de cette problématique qu'on ne lit pas la même chose. Toi et moi, on lit pas la même chose. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas?
Oui, on va pas l'aborder de la même façon. On va arriver avec nos expériences, on va arriver avec nos autres lectures. Donc on va filtrer certainement différemment chaque.
Et puis il y a un malentendu du coup avec l'œuvre.
Toujours un malentendu. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est sur le malentendu. Peut-être que les gens se font éditer. C'est sur un malentendu que les gens sont connus. C'est sur des malentendus.
Et qu'on n'est pas connu aussi.
Et qu'on n'est pas connu, oui, parce que exactement. Voilà, qu'on n'est pas connu. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment bien de pas être connu. Hein,
ouais.
Pas trop.
C'est un
connu,
confort. C'est un
parce
confort.
Parce que sinon, c'est pénible de voir se plier.
C'est ça.
À cette machine broyante. Enfin, que sont les médias. Enfin, on en a déjà parlé de ça. Et moi, je sais pas. Enfin, moi, je suis pas du tout connu.
Oui.
Et je suis très content de ma situation. Hein. Je sais pas si...
Bon, Fitzgerald.
On va me croire, mais c'est pas grave.
Bon, OK. On te croit.
On peut en venir là-bas. Ou...
Ah ouais. Sur l'écriture, Charles Bukowski, c'est quoi ça?
Mais ça, c'est Bukowski, hein.
Ah oui.
C'est un autre Américain. C'est un Américain de... Là, on est dans les années... Enfin, là, c'est le grand Américain des années 60, 70. Connu en France pour sa provocation à apostrophe avec Bernard Pivot, évidemment. Ouais. Avec toutes ses bouteilles de vin, tout ça. Oui, c'est un peu... C'est un écrivain dionysiaque, américain dionysiaque. Sur l'écriture. Donc, c'est quelqu'un qui a une grande lucidité sur sa place dans la littérature mondiale. Hein. C'est ça qui est étonnant quand on lit ça. Il sait qu'il va être connu, reconnu, qu'il va avoir une postérité. C'est assez étonnant.
Ah, ouais.
Et je crois que c'est surtout quelqu'un qui a toujours fait à peu près ce qu'il avait voulu.
Ouais.
D'une écriture très libre, un rapport aux femmes très libre aussi.
Ah, merci.
À la sexualité.
Tu sais que j'ai fait une émission avec une qui m'a... Enfin, j'étais invitée et qui... Je suis une nana, mais je dirais pas ce qui m'a castrée, excuse-moi.
Castrée.
Mais parce que quand j'ai parlé de la liberté...
Il faut pas castrer les femmes, les hommes, enfin.
Quand j'ai parlé, voilà, de ce que tu viens de dire, c'est ça quand on n'a pas une certaine assise. On est facilement déstabilisé par quelque chose. On a vu quelque chose intuitivement, et l'autre, en fait, te lamine en trois... Voilà. Ouais. Alors qu'il y a vraiment un rapport à la liberté, quoi, chez Bukowski. Qui,
absolument. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est une liberté, effectivement, qui touche jusqu'à l'obscène, jusqu'au scatologique. Mais
c'est drôle, quoi.
C'est souvent très drôle. Et on rit la plupart du temps. Voilà,
C'est-à-dire qu'il se fout de la gueule de la société.
Voilà, c'est un rabelaisien qui se moque de tous les pièges, justement, de l'intégration sociale, tout ça. Lui qui boit, qui baise et qui écrit des poèmes. Voilà, il écrit des poèmes. Thank you. Et j'ai eu la chance de faire un petit enfin d'enregistrer avec Denis Lavant, L'amour est un chien de l'enfer. Donc on a fait ça en 2016. Bon, ça sortira pas à cause des droits, mais j'en parle à chaque fois parce que c'était vraiment un très grand moment.
Oui.
Et Denis Lavant s'est emparé de ça. Et donc un jour peut-être,
on
verra ça. Peut-être.
Moi aussi j'ai écrit un poème sur Charles Bukowski.
Mais oui, mais Bukowski, c'est ça. C'est pas du tout le misogyne qu'on peut imaginer. C'est un romancier. C'est un type qui vit là-bas sur la côte ouest des États-Unis, qui fait des lectures, qui vit de ses lectures, qui vit de ses poèmes, qui sait qu'il est un grand écrivain, voilà, qui produit beaucoup et qui va justement, et là il y a un petit rapport avec de Kooning, c'est qu'il va faire un livre qui s'appelle Women.
Ouais.
Voilà, donc les femmes.
Ouais.
Voilà. Donc c'est Bukowski, donc on y revient tout le temps, moi j'y reviens toujours à Bukowski, L'amour est un chien de l'enfer, c'est des poèmes très très inspirés, poèmes sont très inspirés, je crois qu'ils sont écrits assez rapidement et qui tombent juste. Voilà,
oui, c'est beau, c'est très sympa.
Il y a un poème sur sa fille qui est magnifique, un poème sur sa femme aussi, faudrait retrouver les trucs.
Faudrait qu'on fasse une émission sur Bukowski.
Absolument,
parce que, par exemple,
on s'y engage.
Allez. Je pense aussi à Christophe Massé, le premier invité de cette émission que tu connais pas et qui est assez branché sur Bukowski.
D'accord,
ça serait bien de faire.
Pourquoi pas,
Là, il y a une petite phrase, il cite Ezra Pound, elle est sympa celle-ci.
Alors, donc, le vieux Ezra Pound va probablement cracher ses dents en lisant Horse on Fire, mais même les plus grands vivent parfois dans l'erreur, et il incombe à nous, les plus petits, de le leur rappeler comme on se tient à table.
C'est beau.
Ouais. Oui, mais il aime bien Ezra Pound, il aime bien Céline, il aime bien les sulfureux de la littérature, parce que lui-même, il en est un, finalement. Et Bukowski, c'est un peu un symbole de la liberté des années 60-70, après Kerouac, Ginsberg et qui c'est l'autre, Ginsberg, Kerouac et Burroughs, c'est un grand épigone de la Beat Generation. C'est la fin de la Beat Generation, on va dire ça comme ça.
Ouais.
Voilà.
Ok, fin de cette page.
L'amour est un chien de l'enfer.
Alors là, je me retourne et je vois deux choses, mais tu vas nous parler peut-être que d'une. Je vois Apollinaire, alcool et une affiche d'Apollinaire. Non, alors ça se rejoint en fait. J'ai pas à lire. Vas-y.
Mais alors, l'alcool, c'est quelque chose de très important. On vient de le voir. C'est un lien qu'on fait directement avec Bukowski, hein, l'alcool, parce que lui, l'alcool, la bière.
Mm-hmm.
Si vous voulez être un grand écrivain, buvez de la bière, dit-il. Hein.
Je bois pas assez alors.
Moi non plus. J'ai bu beaucoup de vin et là je suis un peu au régime. Ouais. Mais pour combien de temps? Alors, donc il y a le titre, le livre Alcool, Poésie Gallimard. Et puis il y a cette affiche que j'ai trouvée qui est une affiche d'une exposition à la Bibliothèque nationale en fin 1969, illustrée par Picasso. Donc c'est les portraits d'Apollinaire par Picasso.
D'accord.
Il faut savoir que... Alors, c'est un peu un portrait charge, hein, c'est un peu toujours pareil, ce qu'on appelle un portrait charge, c'est-à-dire il a la pipe sur l'oreille, et il est un académicien, donc Picasso se moque un peu de lui, avec beaucoup d'amitié, parce qu'ils sont très, 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 très proches.
D'accord.
Et on dit d'ailleurs que c'est la dernière personne qui va citer, en mourant, Picasso, il va dire « j'ai une pensée pour Apollinaire ».
D'accord.
Donc, c'est quelque chose qui a duré, comme il est mort en 72 ou 13, Picasso... et que Apollinaire est mort en 1918, ben c'est un souvenir de plus de 50 ans et voilà, donc il y a un rapport entre je passe d'Apollinaire à Picasso, mais ils sont très liés tous les deux, voilà. Bon, ouais. pour moi Apollinaire, c'est après Baudelaire et Rimbaud, je mets Apollinaire tout de suite parce qu'Apollinaire c'est très très bien. Tu vas peut-être nous lire un extrait justement d'Apollinaire, toi.
Je sais pas. Je pense que j'en ai lu quelques-uns. Faudrait que j'ouvre au hasard. C'est très joli ça, j'aime beaucoup. Toc toc toc, il a fermé sa porte. Les lys du jardin sont flétris. Quel est donc ce mort qu'on emporte? Tu viens de toquer à sa porte et trotte, trotte, trotte la petite souris. La dame, ça s'appelle. Ouais. L'année dernière, il y a eu quelque chose à l'occasion du centenaire parce qu'il y avait des choses d'Apollinaire partout.
Oui.
Avec des très jolis dessins en coffret. J'ai trouvé ça... Dans une fosse comme un ours, chaque matin je me promène, tournons toujours. Bon, je continue pas, mais donc tu as ça.
Bon, voilà, c'est Apollinaire, il est un peu en face, ce qu'on appelle le facing en publicité, mais comme j'ai l'horreur de la publicité et des publicitaires en règle générale.
Ouais, là, il est un peu caché par un voile de rideau.
Par un voile de rideau.
Il est disponible. C'est la ressource de ton mur.
Absolument. Des fois, ça me surprend. Je dis, tiens, mais Apollinaire est juste derrière le rideau, donc ça, c'est vachement bien. Et puis, à côté, pour en parler, il y a un petit catalogue sur Jean-Michel Basquiat, Paintings and Drawings de 80-88.
D'accord, de la belle couleur.
Voilà la grande liberté graphique de Basquiat. Voilà. Et puis à côté, un documentaire qui s'appelle Ni Dieu ni Maître, une histoire de l'anarchisme de Tancrède Ramonet, qui est vraiment extraordinaire aux éditions Arte. Voilà, je fais un peu moi qui suis compte publicitaire, je fais la pub pour Arte, mais c'est pas grave.
Oui, bon, je crois que j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vu.
C'est très très bien, je te le prêterai si tu veux.
Bon, bah ça vaut le coup de venir chez Jean Hugo.
On essaye.
Donc voilà, donc là on était sur A1, A2, là on tourne pour faire ça. Donc là on écoutez. A ton piano, tu nous as joué quelques notes pour commencer. Venise, un instrument de musique.
Je ne sais même plus comment ça s'appelle.
Mais
ça.
C'est beau.
C'est une balaïka, je crois. Une balaïka, voilà.
Très beau. Et une platine. On tombe sur quelques livres de Henri Matisse. Donc là, c'est un portrait, c'est presque une esquisse. Comme moi, je ne sais pas dessiner, c'est une esquisse libre.
Dans l'espace, comme ça.
Voilà, dans l'espace, avec des photos, des portraits de femmes, des nues.
Un petit courbé, voilà. Anna Karina sur la plage.
Très beau.
Voilà.
Et alors, tout à l'heure, je t'ai posé, avant de commencer cette question... De commencer le 13 bis, pardon.
Oui.
J'ai repris l'idée d'un entretien à un acteur. On lui demandait dans quel film il aimerait vivre.
Oui.
Et moi, je t'ai demandé dans quel livre tu aimerais vivre. Alors ?
Oui, mais dans quel livre ? Il faudrait que ce soit un livre...
Et tu m'as répondu ?
Un livre de liberté. Bon, alors, je t'ai d'abord répondu « Songe d'une nuit d'été », parce que « Songe d'une nuit d'été », pour moi, c'est un des livres les plus libres que j'ai lus, les plus intéressants aussi. Un livre sur l'amour, sur les illusions de l'amour, sur les mystifications de l'amour, sur les hallucinations de l'amour, résolues par, évidemment, comme chaque fois chez Shakespeare dans ses comédies, l'amour existe et tout le monde peut le trouver. Et voilà. Donc c'est un très très beau livre, après certaines pérégrinations de malentendus, comme on a dit tout à l'heure.
Ouais.
Et bien, dans « Songe d'une nuit d'été », vivre là, quel que soit le personnage. Alors il y a un niveau de théâtre, il y a un niveau de symbole, il y a un niveau de féerie, il y a un niveau de réalité. Donc il y a plusieurs niveaux avec lesquels s'amuse Shakespeare, et moi j'adore ça. Voilà.
Ouais.
Et puis après, il y aurait le Candide de Voltaire pour d'autres raisons aussi.
Oui, que tu as évoqué peut-être à la première partie de notre émission.
Que j'ai déjà évoqué, voilà. Et puis à côté, il y a le Faiseur de pluie de Saul Bellow, c'est l'histoire d'un quinquagénaire qui part en Afrique pour refaire sa vie, parce qu'il vient de divorcer. Donc j'adore Saul Bellow, qui a été prix Nobel de littérature en 1975. Et qui est un grand écrivain qui a beaucoup influencé, par exemple, Philippe Roth, dont on a parlé la dernière fois.
D'accord.
Merci.
Moi, je connais que deux noms. Et le Zohar.
Le Zohar, le livre de la splendeur.
Ouais, alors moi, je l'ai feuilleté, je l'ai encore, mais je l'ai feuilleté, je ne vais pas dire que je l'ai lu.
Ça, c'est une petite version, c'est une version...
C'est ce que j'ai,
Voilà, c'est une version d'extrait par le grand spécialiste de la Kabbale, qui est Gershom Scholem. Ce livre de la Kabbale, d'ailleurs, est un livre extraordinaire. Pour moi, c'est un des plus grands livres d'histoire qui a jamais été écrit sur la mystique, et ça dépasse la question de la mystique. Voilà, alors ça, après, c'est la pensée juive, qui est très active, très active, en tout cas, qui est présente dans mes bibliothèques. Voilà.
Parce que
c'est une pensée de liberté, c'est une pensée...
Et de lecture aussi.
Et voilà, et c'est une pensée où on n'a jamais fini d'interpréter... les textes sacrés, où c'est toujours réinterprété, où c'est pas du tout une pensée stagnante, mais une pensée vivante et toujours en déploiement, en développement.
Ouais. Voilà. Et ça peut-être t'inspirer, moi ça m'inspire en tout cas, dans ton acte de lecture à toi. Tu peux aussi y repenser aussi. Tu vois,
tout à l'heure, quand tu as chopé l'Apollinaire, tu as trouvé au vol, tu as trouvé un poème que tu connaissais, et au vol. Donc il y a une espèce de magie comme ça, là, puisqu'on est dans la lectothèque, il y a une magie qui fait qu'à un moment donné, on attrape les livres, et les livres nous parlent à un endroit où on avait envie qu'ils nous parlent.
Ouais.
Je t'avais dit ça la dernière fois déjà. Donc c'est ça. Donc il y a une espèce de. Sans être mystique, mais une espèce de connexion, de synchronicité, pour employer un mot un peu que j'aime pas trop en fait.
Oui, mais même de, je dirais, de l'essence de la vie, qui n'est pas discursive en fait, et qui est justement faite de constellations, alors que le biais du papier nous ferait croire qu'on devrait suivre des choses linéaires, mais non. On va un peu s'arrêter, on va faire notre première pause musicale avec le morceau que tu as choisi, Thelonious Monk.
Alors Thelonious Monk, au piano seul, y a une vidéo qui correspond à ça sur YouTube, ça s'appelle Just a Gigolo. Voilà, je crois que c'était en 1956, quelque chose comme ça. Voilà, donc Thelonious Monk. Eh bien, j'ai joué tout à l'heure très maladroitement. J'en ai un peu honte,
c'est
mais
parti.
Là, c'est lui.
C'est parti. Donc voilà, c'était un super morceau de Thelonious Monk. On va repartir en fait sur quelque chose que tu me disais pendant que le morceau passait, sur le fait que on ne peut pas circonscrire
des œuvres. C'est ça, c'est... Qui est-ce qui peut, par exemple, bon, on repart, qui est-ce qui peut circonscrire tout ce qu'a écrit Bukowski? C'est impossible. Qui pourrait, oui. Là c'est un cas encore plus, on vient d'en parler aussi, mais Shakespeare.
Oui,
personne
oui.
ne peut... Voilà, Homer, savoir exactement tout ça. Donc on ne peut, je crois aujourd'hui, avec toute la bibliothèque dont on a à la disposition, c'est assez récent, c'est à 20-30 ans, le grand public, on a maintenant, avant c'était pas le cas. Alors on peut aller chercher des points comme ça, des angles, c'est ce que je fais moi aussi par rapport à mon écriture, hein. C'est-à-dire je vais chercher un angle, voilà. Donc on ne peut pas circonscrire ce qu'a écrit Montaigne. Je connais personne qui peut circonscrire ce qu'a écrit Montaigne, je ne connais personne. Même quelqu'un que j'aime beaucoup sur Montaigne, qui s'appelle Marcel Conche, qui a écrit Montaigne et la philosophie, qui est, je crois, par ici.
Oui, voilà. Oui, mais c'est inépuisable.
Voilà, c'est inépuisable. C'est-à-dire qu'en fait, l'artiste, le créateur, le génie littéraire, il, si on l'appelle comme ça, faut bien l'appeler par un nom, il a quelque chose qu'on ne peut pas circonscrire. Voilà. Shakespeare, on ne peut pas circonscrire. Alors c'est pour ça qu'on dit aussi que Shakespeare n'a pas existé. Alors Shakespeare n'aurait pas existé.
Ouais.
C'est tellement... Comment a-t-il pu être aussi informé sur l'Italie, de son temps, alors qu'il n'a pas voyagé?
Ou alors, on dit que Shakespeare, ce n'était pas ce qu'il prétendait être, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'était plutôt un
comédien.
Oui, voilà. Enfin, ouais. C'était pas ce qu'il...
Je pense qu'il est assez insupportable pour nous, aujourd'hui, d'imaginer qu'il était à la fois écrivain, comédien, voire décorateur, tout ça. C'est-à-dire qu'il avait cette capacité de faire plein de choses. Moi, je crois que Shakespeare a existé, enfin, n'a pas existé, mais qu'il y a quelqu'un qui s'appelait également William Shakespeare, qui lui a existé. C'est la vanne des Anglais, ça, tu sais. Voilà. C'est pas lui, mais en fait, il s'appelait pareil. Voilà, ouais. Donc, ben oui, là, je les ai ici dans le rayonnage, les comédies. Alors, moi, je préfère les comédies que les tragédies. C'est comme ça, j'adore beaucoup De bruit pour rien, j'adore Comme il vous plaira, mais pour rentrer ça, même les comédiens qui joueraient ça à la Comédie Française, ils vont être, par exemple, vous connaissez trois comédies par cœur, mais ils vont pas connaître les tragédies, forcément.
Ouais.
Voilà. Et puis après, même si on connaît ça, il va falloir avoir l'analyse et le recul pour savoir tout ce qui se passe.
Mm-hmm.
Donc, Shakespeare... Rabelais, Cervantes, tous ces gens-là qui nous fascinent par leur histoire, par leur dimension littéraire foisonnante et leur invention, eh bien, c'est très difficile de les circonscrire. Et alors Proust, c'est l'exemple absolu. Voilà.
Bon,
je crois.
Je t'écoute, je me tais.
Bon, voilà.
Ensuite, donc là, on est... Marcel d'Étienne.
Ah oui.
C'est un philosophe.
Oui, c'est un philosophe. C'est un philosophe qui j'en ai parlé la dernière fois vite fait. C'est
Pardon.
Justement, j'adore en reparler. C'est un philosophe spécialiste de Dionysos, on va dire, de la Grèce antique, qui a écrit un très grand livre que j'aime beaucoup en complicité avec Jean-Pierre Vernant, qui s'appelle La Métisse ou l'intelligence chez les Grecs.
Ouais.
Qui est un livre de de quasiment de stratégie qui reprend la ruse du renard ou la ruse du poulpe qui permet d'échapper, enfin qui jette son ancre, le poulpe, pour échapper à ses ennemis, ou le renard qui se couche comme s'il était mort pour attraper les oiseaux. Voilà, donc ils reprennent ça pour dire qu'en fait les Grecs en tout cas avaient une grande conscience de cette intelligence animale. Ouais. Il reprend ça chez un auteur grec qui s'appelle Oppien, voilà, qui avait fait un traité de la chasse et de la pêche. Et donc Marcel d'Étienne, je l'ai d'abord connu par l'intermédiaire de ça. Et ensuite, il a fait effectivement deux livres sur Dionysos. Dionysos mis à mort, que tu as dans les mains là. Mm-hmm. Et Dionysos à ciel ouvert. Alors, c'est pareil, c'est quand même des gens qui ont travaillé les choses, qui ont un style très à la fois très lyrique, très poussé, très c'est pas un langage, c'est pas de la littérature de gare là, hein. Ouais. on est et puis en plus c'est la question de Dionysios qui a été effectivement repris par Nietzsche de façon tout à fait probante à la fin du 19e siècle. Et je lui avais demandé, à Marcel d'Étienne, quand je faisais ce film sur Nietzsche qui ne verra jamais le jour, je lui ai demandé d'intervenir sur Nietzsche. Il m'avait répondu une très belle lettre, une très jolie lettre. Il m'avait dit, depuis les États-Unis, depuis l'université où il était aux États-Unis, il m'avait dit non, si un jour vous faites quelque chose sur Dionysos, je voudrais répondre, mais pas sur Nietzsche uniquement. Donc ça avait été très gentil. Et malheureusement, il est mort cette année, et c'était quelqu'un de je pense, c'est une belle personne, Marcel d'Étienne.
D'accord, voilà. Je découvre, merci, voilà. Je t'en prie. On va un peu se déplacer, on va aller dans ton antre où il y a encore des livres, c'est bizarre.
C'est étrange,
Et j'ai su que ce trésor était pour moi, voilà. Mais il n'y a pas de titre, il n'y a pas de nom d'auteur.
Mais non,
alors c'est quoi ?
Il n'y a rien.
Ah bon, d'accord, c'est un carnet. Alors,
c'est un truc qu'a sorti Gallimard.
Chaque nuit, je viendrai à ton chevet te raconter une histoire écrite pour toi dans la journée jusqu'à ce que tu reviennes.
Voilà, donc je crois que c'est un truc de la Claftine, hein. C'est Jean-Marie la Claftine. Donc ils ont fait un truc comme ça, Gallimard, un carnet, un cahier. Mais justement, c'est un cahier où c'est la page blanche de Mallarmé, hein. Y a rien d'écrit, j'écrirai rien dessus. Mais j'ai D'accord. su que ce trésor était pour moi, c'est un peu... Je le mets là parce que c'est un peu le symbole de tout ce que j'ai envie de lire. Et là, il se trouve qu'en plus, c'est le rayonnage chinois.
Alors, d'accord. Voilà, c'est le rayonnage chinois. Alors, il y a deux choses que j'aime bien. Anthologie de la littérature chinoise, parce que c'est un peu mon truc, moi, toutes les histoires de la littérature. Donc, Jacques Pimpano.
Après la littérature chinoise, eh bien, voilà, regarde, le livre est plutôt joli, aux éditions Piquier, qui est spécialiste de ça. Alors,
avec des belles illustrations.
Oui.
Est-ce que tu peux peut-être m'expliquer, du coup, avec grâce à ce livre, ton appétit, goût pour la culture chinoise ? Comment t'es tombé dedans encore ? T'arrêtes pas de tomber finalement,
ouais, ouais.
Avec moi.
C'est comme quand on dit tomber amoureux.
Ouais.
Moi, j'aimerais bien me relever amoureux.
Ah, c'est
voilà,
beau,
parce
ça.
Que tomber amoureux.
Alors comment tu t'es relevé ? Ah, c'est beau parce que alors moi, je sais pas que je veux parler de moi, mais ça revient à. Il y a relever, il y a une équivoque dans ce mot. C'est-à-dire que on se relève et puis il y a le relevé.
Le relevé.
Maritime un peu.
Ah, le relevé
des coordonnées.
Le relevé des marées, ouais, de l'horaire des marées.
Alors, comment tu es tombé dedans ? J'arrête.
Non, mais c'est la poésie chinoise. Alors, c'était plutôt le livre de... Je ne sais même pas s'il est là, parce qu'il y en a tellement dans tous les sens que je ne sais pas.
Mais même dans la culture chinoise, alors ?
Non, dans la culture... Non, mais la poésie. La poésie chinoise, là aussi, il y a une anthologie qui a été faite.
Oui, mais concrètement, est-ce que c'est un auteur qui t'y a amené ?
Par Paul Méville. Oui, alors, bon... Il y a celui qu'on appelle Li Bai, qui fait des poèmes à la lune, qui fait des poèmes dans l'ivresse dans la soirée, dans une grande nostalgie, il boit du vin, il contemple la lune, il contemple la montagne, il contemple la rivière qui coule, il est nostalgique d'une dame qui est partie, des choses comme ça, voilà. Donc
on parle de la poésie, toute la
poésie fondamentale, la poésie. La poésie, mais de type philosophique, parce que on a Lao Tzu, évidemment. Hein,
c'est beau, ça.
Voilà.
Excuse-moi.
Ah, vas-y.
Comment construire un immense édifice de 1000 et 10 000 travées qui abriterait les pauvres lettrés du monde entier, où tous vivraient joyeux?
Voilà. Ah. Voilà. Il y a quelque chose de... Je ne sais pas si le mot est exact, mais quelque chose de naturaliste chez les Chinois qui, moi, m'intéresse. Hein, il y a une contemplation de la nature, de l'arbre, des arbres, de la rivière, des prés, de la montagne, des nuages, des nuées, voilà, des animaux. Il y a un grand respect... une grande conscience chez les lettrés chinois de leur position dans le monde. C'est-à-dire, ils savent qu'ils sont tout petits. On le voit dans les peintures, ils sont tout petits dans le paysage.
Oui,
ils sont tout petits.
Notre poésie aussi, non ? Notre poésie contemporaine, tout ça, la bonne poésie.
Alors, je trouve qu'elle est beaucoup moins naturaliste. Eux, c'est des choses assez simples. Hein. Et puis, c'est des choses. C'est pas vraiment comme les haïkus japonais, mais c'est des choses. Je sais pas, faudrait trouver. Mais oui, c'est des trucs. Ce que tu viens de dire, là.
Moins naturaliste.
Ouais, mais c'est très sensé, en fait. C'est toujours.
Oui.
Il me semble que c'est appuyé sur une constatation très naturelle.
Oui.
Voilà. Donc, c'est la description élémentaire du soleil, de la lune, du vent, des éléments. Il y a toujours cette question des éléments, tu vois, qui est bien. Et puis là, par exemple, si tu vois dans le shuta, ici, l'unique trait du pinceau, à un moment donné, voilà, ben on tombe en plein dessus, donc on a vraiment de la chance. Le canard est sur un rocher, ici, dans le...
Ouais, le canard.
Le poisson et un canard, et le poisson est au-dessus.
Mm-hmm.
Voilà. Et ça c'est super rigolo parce que jamais dans l'histoire d'un truc on a montré un poisson au-dessus. Alors voilà. Donc moi j'aime bien Shuta, il y a Shuta, il y a Shitao, il y a toute cette école de peinture très originale.
Oui, c'est quand même assez rassemblé, hein. Beaucoup de choses sur la Chine. On est dans la Chine.
Oui, mais après avoir un peu travaillé sur la peinture occidentale, avec...
Mais c'est bien.
Voilà.
C'est pas si bordélique que ça, excuse-moi.
Pas tant que ça. Non, mais j'ai fait un effort parce que je savais que t'allais venir.
Non, alors... et dessous, Philippe Roth, dont on a parlé à la première partie de l'émission.
C'est pareil, Philippe Roth, pour arriver à faire le tour de son œuvre, c'est tellement énorme. Là, tu vois, il y a l'Amérique de Philippe Roth, qui est en quarto, Pastorale américaine, J'épouse un communiste, La tâche qui a été adaptée en film, Le complot contre l'Amérique. Eh bien, il faut s'atteler à tout ça, et puis essayer de voir. Donc ça, c'est pas pour tout de suite. Donc le théâtre de Sabbat, ici, qui est mon livre préféré de Roth.
Ouais.
Moi, j'ai commencé à lire Roth avec Le Saint, qui est une histoire d'une métamorphose un peu piquée à Kafka. Donc il se transforme pas, l'auteur ne se transforme pas en scarabée, je crois que c'est un scarabée, c'est Kafka, mais il se transforme en saint.
D'accord.
Il n'est que saint.
Ouais.
Il est, voilà, donc il a une forme de saint. Et donc c'est à la fois érotique, c'est à la fois absurde, c'est à la fois fantastique. Et j'avais démarré là-dessus, mais c'est longtemps, hein, j'avais une vingtaine d'années, j'étais tombé sur ce truc, j'avais dit quand même voilà. Et puis j'ai oublié un peu Roth, et puis après je suis tombé, je sais pas quand est-ce que ça s'est sorti.
Le théâtre de Sabbat.
Le théâtre de Sabbat, donc c'est l'histoire d'un marionnettiste de Central Park, qui arrive plein d'aventures, bien sûr. Il y a plein de femmes autour de lui.
Donc là, on doit entendre les pages tourner un peu.
Voilà. Donc c'est sorti.
Non, on est dans un livre, c'est normal.
On est dans un livre.
Voilà.
On est dans un livre. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait à dire comme ça? Je ne sais pas. Non, mais je ne me sens pas légitime pour lire un passage de Philippe Roth maintenant. Ce que je peux lire, par contre, c'est juste à côté, comme par hasard.
Ouais.
C'est l'Ecclésiaste. Voilà. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Que retire l'homme de tout travail qu'il occupe sous le soleil? Une race passe, une autre lui succède, mais la terre demeure ferme pour jamais. Le soleil se lève et se couche, et il retourne d'où il était parti, et renaissant du lieu même, il prend son cours vers le midi et tourne vers le nord. L'esprit tournoie de toutes parts, et il revient sur lui-même par de longs circuits. Tous les fleuves entrent dans la mer, et la mer n'en regorge point. Les fleuves retournent au même lieu d'où ils étaient sortis pour couler encore.
Magnifique. On va en profiter pour faire un petit intermède musical numéro 2.
On Ok. Alors, donc...
Alors, on a dit...
On a dit que c'était, Mozart.
Quoi,
c'est Mozart.
Ah, mais voilà. C'est Mozart. Alors, par contre...
Alors, Mozart, c'est un extrait de Così fan tutte. Voilà. Je crois qu'on a perdu les fiches. Donc là, ça veut dire qu'on est très bien.
Voilà. Voilà.
Donc, ben oui, c'est Mozart. Comment faire une programmation musicale sans mettre Mozart? C'est très compliqué. Donc, c'est son dernier opéra de écrit avec... avec Da Ponte, après les noces de Figaro, après le Don Giovanni, Così fan tutte, et ici un morceau suave qui dit que doux soit le vent, tranquille les ondes, et que chaque élément réponde à notre désir. Le morceau il s'appelle Suave sia il vento. Ça ne vient pas du fond tellurique, ni de la tectonique des plaques. Ce n'est pas un glissement de terrain. Un souffle incontrôlable agite les motifs violemment. Une tornade inflige au paysage, aux matériaux, au corps, une déformation innovante. Jamais la perception n'a été aussi troublée, brouillée, contredite, rejouée. Il faut faire le point avec la matière, la tordre, la lancer en l'air, et aussi s'y élever spirituellement. Le mouvement flamboyant des figures permet d'atteindre le ciel sans échelle de Jacob. Ici et maintenant, ça vibre et ça vrille. Le sujet traité est promptement essoré. Cette force qui danse avec la vérité inculquée n'en fait qu'à sa tête. J'aime Soutine pour son prénom, Chaïm. La peinture de Chaïm, qui signifie vie en yiddish, est-elle le furet des bois jolis? On la suit à la trace, on la perd, on tente de l'attraper du regard, on ne la capte pas aisément. D'impasses en route principale, de pentes montantes ou descendantes, de sentiers improbables en ponts parfaitement bancals, d'arbres en forêt, de cabanes en immeubles, elle passe partout, cette liberté sans concession, et elle redonne forme à tout ce qu'elle croise. Quelques personnages informes sont de guingois, étirés, fondus dans le paysage, tels ceux perdus dans les grandes peintures de montagnes et d'eau de l'art chinois. La peinture de Soutine n'est pourtant pas une gesticulation, pas plus qu'une chorégraphie déstructurée. Cette danse d'inflammation interne est une transe sacrée de peinture, une projection de boules de feu, comme celle qui brûle au visage de l'homme au petit chapeau de feutre de 1922. Elle réchauffe son temps par ce qu'elle propage. Elle pète le feu, cette peinture.
Merci Jean-Hugues. Est-ce que tu peux nous parler de ce texte que tu viens de produire, alors, hein, si j'ai bien compris?
Oui.
Et tu vas nous parler de ce texte, j'aimerais donc des motivations qui sous-tendent ça, et aussi, puisqu'on est dans une émission où j'aimerais bien traiter les aspects de la lecture et donc de l'écriture, peut-être si tu peux nous parler... de choses dans cette sphère-là. J'aurai pas de questions précises, on verra après. Donc d'abord, peut-être les motivations, explique-nous un peu.
Alors ce texte s'appelle « Danse avec Soutine ». Donc je suis content de le lire comme ça, parce que je vais le relire normalement pour le printemps de la poésie, le 16, je fais une annonce, hein, je fais une annonce publicitaire, le 16 mars, le lundi 16 mars à 20h, je vais lire ce texte dans son intégralité si j'y arrive. Donc c'est un texte que j'ai voulu faire parce que j'avais commis déjà l'année dernière ce livre sur de Kooning, on y revient, et il se trouve que cette année, ben, il y a l'expo de Soutine de Kooning. Il y a l'expo Soutine de Kooning, et donc j'ai un ami qui s'appelle David Pigeret, qui travaille au Rayon Mola, et qui m'a dit, mais ça serait bien que tu écrives quelque chose sur Soutine, puisque tu as déjà écrit un truc sur de Kooning. Alors, grâce à lui, je me suis mis à travailler sur Soutine depuis quelques mois. Et j'ai fini quelque chose. Voilà, j'ai mis quelques temps, j'ai fini quelque chose. Et donc Soutine, que j'avais vu évidemment à l'Orangerie, Soutine dont j'allais voir le bœuf écorché au musée des arts de Grenoble, depuis Lyon, avec mon ami Jean-Paul Jacquier. Voilà, j'ai toujours eu Soutine comme ça en toile de fond, et puis à un moment donné, ben, je me suis dit, comme il y a l'expo Soutine, je vais faire un texte sur Soutine. Comme ça, j'aurais fait Soutine.
Donc déjà, voilà. Tu nous dis des choses sur les bifurcations, en fait, que peuvent nous amener d'autres personnes dans notre chemin, en fait. Donc là, c'est presque... voilà, une sorte de mur, de limite, on te dit, pourquoi pas.
C'est pas une commande dans ce cas-là, mais un conseil,
c'est une porte qui s'ouvre, en fait.
C'est une bienveillance aussi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui dit, peut-être t'es capable, la plupart des gens diraient, mais non, tu seras jamais capable de faire quelque chose. Et bien là, il y a quelqu'un qui vous dit, tu devrais faire ça, parce que ça serait peut-être bien.
Ouais.
Alors tout de suite, c'est la sortie de la rivalité des artistes entre eux, de tout ça, de toute cette espèce de chose qui est...
Bon, mais t'es assez spontané, en fait.
Un peu trop. Encore à mon âge.
Est-ce qu'on pourrait axer la chose par rapport à puisqu'on on dérive un peu vers ton écriture, mais qui est un pendant du fait que tu étais un lecteur, sur une lecture de cette peinture-là, alors? Est-ce que, grosso modo, tu peux nous aider à lire cette peinture, du moins comme toi tu la lis?
C'est ce que j'essaie un peu de faire. C'est-à-dire, j'ai essayé de circonscrire, circonscrire, c'est un bien grand mot, puisqu'on disait...
Déjà le situer, pour...
Déjà, comme je disais, de la même façon que tout à l'heure je disais qu'on ne peut pas circonscrire un grand écrivain, un grand peintre, c'est pareil. Alors, moi, j'ai repéré des arbres dans le vent, des villages et des maisons un peu branlantes.
Mais est-ce que, tu vois, tu le situes aussi, toi, d'emblée?
Oui.
Parce que oui, voilà. Mais c'est pas évident, tu vois. Moi, ce que je te le dis. Et moi, comme je sais pas où il est, j'aimerais déjà que tu me le situes un peu.
Je le situe parce que je l'ai vu. Alors, comme je te disais, je l'ai vu à l'Orangerie. Donc à l'Orangerie, ce qui est très particulier, c'est tous ces animaux morts, notamment ces volailles, ces lièvres, qui sont comme ça en enfilade. Il y a une quinzaine de tableaux qui constituent la collection Paul Guillaume. Et j'avais déjà été fasciné par ça. Voilà, j'avais déjà été fasciné. Ensuite, le bœuf écorché qui vient de Rembrandt. Là aussi, je me suis dit quand même, dans cette peinture, un bœuf éventré, il y a de la couleur, il y a quelque chose d'extra. C'est presque un feu d'artifice. Voilà comment j'ai vu Soutine. Donc Soutine, c'est quelqu'un qui, effectivement, dans les années 10, 15, je ne sais plus exactement, travaille ce qu'on appelle la ruche à Montparnasse. Il rencontre Modigliani, il rencontre d'autres peintres. Et voilà, et il y a une particularité chez lui qui est un peu la même que j'ai trouvée chez de Kooning. C'est-à-dire de Kooning, il est très atypique dans la peinture américaine, je trouve.
Et Soutine, c'est pareil, il déforme les choses, mais pas du tout comme Picasso de façon géométrique, mais de façon plus directe. Comme je l'ai dit au début, c'est comme si un souffle venait tout faire bouger, venait changer notre perception directe, mais vraiment, mais sans côté intellectuel, de façon beaucoup plus spontanée, et tout en gardant, je trouve, cette humanité. Il y a une grande humanité chez Soutine. Mmh. C'est ça. Et on le voit dans ses portraits. Ça, on va le voir dans ses portraits.
Bon, tu me rends curieuse, en tout cas. Bon, parce que moi, je ne sais pas lire la lecture. Il y a des choses où j'ai... Ouais. Voilà, où je me suis un peu éduquée avec ça. Mais sinon, franchement... est-ce que, alors, s'il n'est pas intellectuel, une question piège, on n'a pas du tout préparé avant, est-ce que tu pourrais le rapprocher, faire un pendant avec une œuvre écrite, Soutine, si tu avec devais le rapprocher.
Ouh là là, ça c'est difficile.
Ouais, ouais, c'est peut-être.
C'est difficile.
Super piège là.
Non, mais c'est bien les pièges, on n'est pas obligé.
Peut-être que tu répondras plus tard.
On n'est pas obligé de tomber dedans et voilà. On est obligé d'y répondre. Mais non, Soutine, ça me ferait penser à quoi? Je ne sais pas du tout.
Peut-être que ça viendra plus tard.
Ouais, mais je.
Hors de l'émission.
Oui, hors de l'émission, je reviendrai.
On en fera une troisième.
Voilà, c'est ça. Je ferai une effraction dans une autre émission.
Voilà. Tout d'un coup, on va voir Jean-Hugues Larcher arriver. Oui.
Non, alors, ce que je peux te dire quand même, malgré tout, si je peux te dire quand même ça, parce que j'essaie toujours de répondre, hein, il faut répondre, c'est que Elifort, le grand critique d'art, lui a travaillé sur Soutine et il a dit. Je le lis. Je crois que cet oriental d'Europe représente un grand moment de peinture, peut-être une peinture athée, comme depuis 4 siècles, mais non plus comme elle, naturaliste par le dehors et intellectuelle. Elle tend à créer de l'intérieur un organisme nouveau avec les seuls éléments du réel, peut-être pointe en elle la mystique de l'avenir, sans support confessionnel. Voilà, c'est Elifort, hein. C'est un peu, voilà.
Ouais, mais c'est
ça serait une peinture mystique, mais sans support religieux, vraiment, tu vois. Voilà, oui. sans appartenir à, voilà.
C'est le vrai mysticisme, à mon avis.
Ah, ben voilà, ben ça, bon. C'est parfait.
Bon, je suis un peu lapidaire et ignorante, mais bon.
Non, mais c'est vachement bien. Après, on a Georges Bataille qui est pas loin, qui a aussi un vrai mystique, mais que personne ne
pas d'intermédiaire, c'est mieux.
C'est vachement bien. On va manger un peu de chocolat.
Voilà, on fait un peu de bruit, excusez-nous. Alors, nous allons continuer, chers auditeurs. On va peut-être repartir jusque dans ton entrée, puisque là tu viens de nous lire un petit morceau dans cette dernière partie de l'émission. Donc, ici, ah oui, voilà, tout à l'heure, ici nous avons le cas Homère.
Ouais, par Nietzsche. Ouais,
alors, voilà.
Mais j'ai retrouvé ça. Bon, ça existe en Pléiade, hein, bien sûr, mais j'ai retrouvé ça il n'y a pas longtemps, comme ça, je ne sais plus où j'ai trouvé ça, le cas Homère. Mais alors, je lis ça en ce moment. Je vais vous lire le quatrième de couve, hein, parce qu'en tant que libraire d'ancien, il faut que je connaisse les quatrièmes de couve. Alors, au début de sa carrière encore, Friedrich Nietzsche se consacre à Homère. Il installe l'idée d'un primat du poétique, non pas comme embellissement, mais comme exercice réflexif. Donc le primat du poétique comme exercice réflexif.
Mm-hmm.
En ce sens, la philologie précède, anticipe mieux et conduit à la philosophie.
Rappelle-nous après ce que c'est la philologie. Hein.
Alors la philologie, c'est l'étude des textes.
Voilà.
C'est approfondir des textes, comprendre leur
structure,
tout ça. Et après, on arrivera dans les années 60 avec l'équipe, ça fait longtemps que j'ai passé les solaires, de tel quel avec ce qu'on appelle l'intertextualité. Mm-hmm. Donc là, justement, pour aller un peu plus loin dans la connaissance et le savoir, l'intertextualité. Mais là, ça devient très compliqué.
Oui.
Et après, c'est des auteurs...
Mais moi, ça m'intéresse, ça. Voilà, bon. Voilà. Mais d'ailleurs, excuse-moi...
Alors, oui, t'as vu, il a des belles lunettes, un peu en...
Non, mais moi, ce que j'aime bien, là, c'est en fait, c'est je lis poétiquement. Mm. Et je lis le chaos...
Le chaos mère.
Le chaos mère.
Alors, je pense qu'Homère était un cas. Et je pense qu'Homère... Homère, effectivement, radiographie, certainement, le chaos. Hein, l'Iliade, c'est un chaos absolu, c'est une guerre sans pitié pour les protagonistes. Il y a énormément de cruauté. Voilà, c'est un chaos. Mmh. C'est un chaos, Homère. Et alors, il y a quelques... Dans l'Odyssée, ben il y a dans ce chaos, il y a quelqu'un comme Ulysse qui
j'ai vu un Ulysse là un peu plus voilà, en avant dans ton appartement.
Voilà, qui lui est protégé par Athéna.
D'accord, la déesse de la guerre.
Alors voilà, ils sont protégés par les dieux. Les dieux, soit ils les maudissent, soit ils les protègent. Il y a tout un truc comme ça, mythologico. Voilà, c'est des aventures, hein, je veux dire, voilà, c'est des aventures, mais c'est très littéraire, c'est très métaphysique, c'est très poétique. C'est Homère. Alors j'essaie de m'y remettre. Je vais essayer de recommencer par le commencement de la littérature, c'est-à-dire Homère.
Bien. Est-ce que... Ah oui, alors tout à l'heure, ben là on revient un peu alors à ton bureau.
Oui.
Et je t'ai parlé, puisque tu nous as gentiment passé un extrait de la voix sublissime de Denis Lavant. Et je t'ai dit, ah ouais, je connais ce livre, Jeu et théorie du Douendé. Et il y a un super à visionner sur YouTube, entretien avec Denis Lavant sur le Douendé, qu'est le Douendé. Et là, que j'ai connu moi grâce à des soirées, j'ai connu ce livre grâce à des soirées poésie.
Bien sûr.
Donc ce livre, peut-être tu peux nous en parler.
Moi,
j'aime bien les éditions Alia en plus.
Alors Lorca, voilà, Lorca, il se trouve que moi je me suis servi de ce livre en fait pour faire une exergue à mon travail sur Picasso.
Mm-hmm.
Alors je vais essayer de retrouver ça. Le Duende. Le Duende, c'est un peu ce que moi j'appelle aussi la sprezzatura, hein. C'est-à-dire la sortie des contraintes, la sortie de la gravité, la sortie de la gravitation. Le Duende, c'est à un moment donné ce qui le souffle qui nous a, enfin qui nous, enfin, pas le souffle.
C'est le génie sans forcément le talent, mais c'est le génie. Enfin, je te coupe moi.
Vas-y, c'est très bien.
C'est le génie, on est à la limite du démoniaque et on se laisse...
Voilà, le Duende, c'est ce qui nous... Ça nous traverse, et moi je dirais ça nous allège. Chez Lorca, j'ai l'impression qu'il y a même un peu la notion de transe.
Oui.
C'est-à-dire que la danseuse de flamenco, elle rentre dans le Duende.
Oui.
Elle rentre dans le Duende. Alors il y a à la fois de la violence, il y a à la fois de la légèreté, il y a à la fois de l'érotique, il y a à la fois du défi. C'est ça qui est génial dans le Duende. Alors ce que j'ai mis moi dans mon texte de Picasso, qui sortira peut-être jamais, mais peut-être pas, peut-être que si. Le Duende annonce le baptême permanent des choses fraîchement créées. Et je trouve ça vraiment superbe. Le Duende annonce le baptême permanent des choses fraîchement créées.
Mmh.
Donc c'est très, c'est toujours, on est toujours dans le renouveau.
Ah ouais. Mais il y a quelque chose aussi de l'ordre quand même, parce qu'il y a baptême dedans, une solennité, un rite.
Oui.
Mais un rite qui ne dit pas son nom en fait.
C'est ça.
Et ça veut dire tout l'assistance, à la fois le spectateur et celui qui est possédé par le Duende, sait qu'il y a quelque chose qui se passe.
Mais si tu veux, quand on voit le baptême permanent, le baptême c'est quelque chose qu'on a au début. Le baptême, c'est ça crée un début et permanent. Donc déjà, on est dans le paradoxe. C'est un baptême permanent. C'est-à-dire qu'en fait, on pourra toujours renouveler peut-être les choses. Tu vois, voilà. J'irai pas les ressusciter parce que alors là, ça va pas aller. Mais oui, je tape un peu parce que j'ai l'impression que je pourrais faire des flamencos aussi. Voilà.
Et il y a ça, et il y a aussi encore Lautréamont.
Oh ben ça, Lautréamont.
Voilà, tu le consultes, tu l'as à portée de main.
Lautréamont, il est tellement fatigué.
Lautréamont, Vivaldi, dont on a parlé lors de la première émission.
Lautréamont, je vais être obligé de lire ça quand même, parce que je crois que c'est super important, enfin en tout cas pour moi, et je n'y arrive pas, mais je veux lire quand même comme quelque chose qu'il faudrait que je revienne. Alors, au début des poésies de Lautréamont, il y a écrit en exergue. Donc, je remplace la mélancolie par le courage, le doute par la certitude, le désespoir par l'espoir, la méchanceté par le bien, les plaintes par le devoir, le scepticisme par la foi, les sophismes par la froideur du calme et l'orgueil par la modestie. Voilà, donc ça c'est quelque chose auquel je n'arrive absolument pas, mais que je me récite un peu comme
mantra.
Exactement, comme un mantra, voilà. Lautréamont, c'est mantra.
Bien, bien, bien. Bon, Jean-Hugues, je pense qu'on a fait un bon tour, là, aujourd'hui.
Oui.
Hein.
Oui. Mais oui, on a fait un bon petit tour, quoi.
Voilà, c'est inépuisable, hein.
Oui, c'est ça, mais déjà, c'est beaucoup, parce que ça fait deux heures.
C'est inépuisable.
Heures. Voilà. Ça fera deux heures qu'on a passé ensemble depuis l'autre fois.
Voilà.
Donc peut-être qu'on a un peu marre.
On va finir. J'aime bien cette formule. On va finir sur ton canapé.
Ah ben bravo. Tout le monde va s'imaginer des choses.
Mais avec Jules Michelet, je vois.
Oh, Jules Michelet.
La Bible de l'humanité.
Oh ben là, la Bible. Alors là, c'est parti. Hein. Là, la Bible
on
de l'humanité.
On va finir avec la Bible. Ah non, mais attends. Il y a, ouais. Philippe Solers. La guerre du goût.
Oui, ben ça, la guerre du goût, ben je préfère presque parler de... Enfin, pas presque, mais
je
préfère parler...
Oh, je suis étonné.
Voilà, c'est ça. C'est étonnant. Oui, écoute, Solers...
Allez, on finit sur Solers.
Ben oui, évidemment.
On va dire bonjour à notre amie Marie-Odile, voilà. Qui sera ravie.
Marie-Odile, quelle est gentille, Marie-Odile. écoute, c'est la guerre du goût, donc ça, c'est un peu... C'est l'encyclopédie de Solers, hein, c'est là où il reprend tous ses grands textes sur Fragonard, sur Genet, sur Céline...
Peut-être que je le lirai celui-ci.
Le swing de Morand. Tu vois, je prends l'Apologie de la Marquise de Merteuil, La Folie Saint-Simon, Le Désir, qui est le titre d'ailleurs de son prochain livre, je crois qu'il va sortir bientôt. Voilà. Et surtout sur Genet, c'est assez extraordinaire, hein, ce qu'il a fait sur Genet, je trouve ça. Voilà. Isidore Ducasse, donc Le Comte de Lautréamont. Voilà, écoute, ça c'est pareil, c'est très difficile de circonscrire parce que c'est des grands travaux qui ont duré des années et que Solers, qui est encore là, à 83 ans, sort son prochain livre au mois de mars. Et voilà, et puis ici il y a aussi tu vois, qu'est-ce que la musique de David Byrne.
Ah oui, tu sais ce que tu nous avais dit.
Voilà, t'as vu comme il est joli cet orange.
Ouais, c'est un beau livre. Bon, on va devoir par contre circonscrire l'émission, hein, parce que nos auditeurs...
On a dépassé largement
voilà,
temps qui nous était imparti.
On va se quitter sur... T'en parles très bien, vas-y, je te laisse en parler parce que...
C'est fini après ou on revient après ou on termine là-dessus?
Ouais, on va terminer là-dessus, Jean-Hugues. On va se quitter.
Bon, alors je voudrais quand même juste te dire, j'ai un petit slogan.
Ah bah oui, vas-y, pardon.
En quatre parties, en quatre expressions.
Vas-y.
Et après, ça, voilà. No pasaran.
Tu connais.
Fuck the power.
Ouais.
Liberté, liberté chérie.
Ouais.
Et l'amour, toujours l'amour. Et donc l'amour, merci. Toujours l'amour.
Et ouais.
C'est Billie Holiday dans Lady in Satin avec sa voix éraillée. C'est son dernier disque orchestral avec un orchestre derrière et ça s'appelle For Heaven's Sake.
Je te remercie beaucoup, Jean-Hugues.
C'est moi, Delphine.
Et
merci
puis
beaucoup.
Je te dis à bientôt.
Évidemment.
For Heaven's Sake, let's fall in love. It's no mistake to call it love. An angel's holding hands with me. How heavenly heaven can be. Here is romance for us to try. Here is the chance we can't deny. While heaven's giving us the break, let's fall in love. For heaven's sake, don't say a word, my darling. Don't break a spell like this. Just hold me tight. We're alone in the night, and heaven is here in a kiss. This pair of eyes can see a star, so paradise can't be so far, since heaven's what we're dreaming of. For heaven's sake, let's fall in love. say a word, my darling. Don't break a spell like this. Just hold me tight. We're alone in the night, and heaven is here in a kiss. This pair of eyes can see a star, so paradise can't be so far. Since heaven's what we're dreaming of, for heaven's sake, let's fall in love.